Cinéma m'était compté, une première.
Action.
Alors c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais.
Non, je suis le pompiste de la station-service.
À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer.
Je crains déjà d'être important, je ne voudrais pas être indélicat.
Au nom de la loi, je vous arrête.
Comment m'avez-vous trouvé ?
C'est mon métier.
J'aime cet endroit.
Nous sommes là, en pleine brousse.
Je m'appelle Monsieur le Directeur.
Les acteurs sont incroyables.
On peut pas dire que t'es tout à fait tort.
Ce que je vous dois aujourd'hui, c'est la vérité.
Oh, là, une excuse.
Ben, vous pouvez poser vos valises, on va pas vous les piquer.
C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Chaque samedi, les plus grands acteurs
sont dans Cinéma m'était compté.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en direct sur Radio Campus Lille fréquence 106.6 pour la 45e édition de votre émission consacrée au 7e art. Voici Cinéma m'était compté, un programme présenté par Christophe Dordain. L'émission a été préparée par Christophe Colpart avec le soutien de Cédric Poulvord et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et pour cette nouvelle édition, nous avons décidé de conclure un cycle que nous avions entamé consacré à Roger Moore dans le rôle de l'agent 007 James Bond. Alors, vous le savez, de nombreuses émissions ont déjà été proposées qui abordaient ce sujet. On avait un petit peu d'heure commencé par la période fin des années 70, à mi-chemin entre L'espion qui m'aimait Moonraker, et puis ensuite on avait glissé dans les années 80 pour nous intéresser cette fois à Rien que pour vos yeux ou bien encore Dangereusement vôtre. Et on a même fait une émission spéciale, l'année 1983, cette année-là, où 007 avait vu double parce qu'il y avait eu deux James Bond pour le prix d'un. Alors il semblait naturel, enfin, d'en finir avec Roger Moore et de voir à quel moment il est devenu James Bond au début des années 70. Vous l'aurez compris, Cédric et Christophe vont m'accompagner pour mener à bien cette mission qui n'est pas rien que pour vos yeux, mais rien que pour vos oreilles, et de commencer tout de suite avec un classique du genre, Paul McCartney, Vivre et laisser mourir. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Nous sommes quelque part vers le 21 juin 1973 du côté de New York quand a eu lieu l'avant-première du nouveau James Bond attendu avec un nouvel interprète, en l'occurrence Roger Moore, qui va nous intéresser à travers cette édition de Cinéma m'était compté, puisque à travers deux films, Vivre et laisser mourir tout d'abord et L'homme au pistolet d'or ensuite, nous allons justement essayer de voir de quelle façon, eh bien, Roger Moore est devenu l'agent 007. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous dire que c'est en fait un destin qui aurait déjà pu se produire, la rencontre aurait déjà pu se produire bien avant. Mais, de commencer par saluer mes comparses en la personne de Christophe Colpart qui a préparé cette émission. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe, bonjour Cédric, bonjour à tous. Très content d'être de retour.
Ça se sent, et à tes côtés, et je pense qu'il en est très heureux aussi, Cédric Poulvord. Bonjour Cédric.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Alors, à l'instant, la partition donc composée par Paul McCartney, il n'est pas seul, hein, je veux dire, voilà, c'est son épouse a joué un rôle, lui a donné un coup de coude salutaire pour lui dire « Tiens, ça vaut le coup de faire une partition de James Bond », et quand on voit le résultat final, elle a bien eu raison. Hein, Linda McCartney ne s'est point trompée. Alors, à propos donc de « Vivre et laisser mourir », avant d'aborder le film en lui-même à travers différents thèmes que nous avons dégagés, il y avait donc un petit mot que je souhaitais dire en guise d'introduction. C'est Roger Moore et James Bond, oui, ça aurait déjà pu se produire bien avant. Alors là, il va falloir mélanger grand écran et petit écran. Il s'avère que lorsque l'on évoque l'adaptation au grand écran de James Bond contre Dr. No, déjà à l'époque en 62, le nom de Roger Moore circulait, Christophe.
Oui, oui,
il
oui,
était
oui.
déjà dans les parages.
Oui, oui, oui.
Et donc, ce nom circulait, mais Ian Fleming aurait bien dit oui quand les producteurs, eux, disaient plutôt non. Alors, notamment, il reprochait à Roger Moore d'être un petit peu trop raffiné, suave, quelque peu débonnaire, alors que Sean Connery va apporter une forme de bestialité, sont toutes bienvenues. Alors c'est d'autant plus curieux quand on sait que Roger Moore, déçu de ne pas être 007, va s'orienter vers le petit écran pour devenir le saint adapté des romans de Leslie Charteris. Et si vous lisez les romans de Leslie Charteris, vous allez découvrir que Simon Templar, c'est un salopard, c'est une ordure, qui massacre, qui torture, qui tue. Et dans la série Le Saint, le personnage est atténué. Enfin, voilà, je trouve ça un petit peu assez curieux de voir que Roger Moore a fait quelque chose que quelque part on s'apprête à lui reprocher pour 007. Là-dessus, quelques années plus tard, en 69, cette fois, exit Sean Connery, a priori, jamais plus jamais, si j'ose dire. Et normalement, le nom de Roger Moore remontait en tête de liste pour Au service secret de Sa Majesté. Seulement à ce moment-là, le voilà embarqué dans Amicalement Vôtre, parce que c'est à ce moment-là que la production s'est lancée. Et donc, la production d'Amicalement Vôtre commence en juin 70. En juin 71, les 24 épisodes sont tournés. Et à nouveau, se pose la question d'un Roger Moore pour 007. Et cette fois, lui de dire, alors là, stop, messieurs, je ne vais pas, c'est la troisième fois, louper le train. Pourtant, 6 scripts d'Amicalement Vôtre, saison 2, avaient déjà été écrits, supervisés par Tony Curtis. On s'est posé la question de remplacer Roger Moore par Rock Hudson, voire même par Glenn Ford. C'était les noms qui ont circulé à l'époque. Mais bref, tout cela a été complètement, au fond, quelque part ridicule, tant l'alchimie entre les deux personnes d'Amicalement Vôtre était évidente. Et c'est comme cela que Roger Moore est enfin devenu, un peu tardivement, la quarantaine bien dépassée, l'agent 007, Christophe. Et pour vivre et laisser mourir, qui plus est, on entre aussi dans une séquence bien particulière où 007 va systématiquement ou presque surfer sur la mode. Pourquoi ?
Totalement, il surfe sur la mode déjà vestimentairement parce que, je suis désolé, mais les deux films qu'on va évoquer, c'est l'apogée de James Bond au point de vue des costumes.
Pelle à tarte.
Ah, et puis même dans le mot...
Staccaro.
Ouais, et puis même les... Je pense là aussi qu'il y a du Cyril Castle qui était le costumier personnel de Roger Moore, qui lui faisait ses propres costumes. Il doit être quelque part pas très loin à superviser un petit peu tout ça, parce que franchement là, que ça soit Vivre ou Laisser Mourir, le mot pistolet d'or, les costumes, les cravates sont magnifiques, c'est tout ce que j'aime.
Voilà. Ça m'étonne pas.
Ah oui, ça se voit.
Et alors, il y a aussi un deuxième effet de mode sur lequel le film surfe.
Ah bah oui, le film surfe essentiellement sur la black exploitation, parce que mon Dieu, qu'il y a grand nom dedans. premier de tous, Monsieur Yaphet Kotto, Meurtre dans la 110e rue avec Anthony Quinn, un de tes films préférés, Christophe, je pense.
D'ailleurs, il le tournait au moment où il était sollicité pour jouer le rôle du méchant.
Exactement. Et d'ailleurs, dans Vivre et laisser mourir, Gloria Enders, qui joue le rôle de Rosie, avait déjà tourné avec Yaphet Kotto dans Meurtre dans la 110e rue. Mmh. Ça faisait déjà une apparition.
Il faut bien comprendre que dans l'univers James Bondien et de Roger Moore en particulier, c'est le moment où les films de 007 ont surfer sur des modes, on en reparlera à propos de l'homme au pistolet d'or.
Surtout, la Bloxploitation était un genre très très prolifique. Mm-hmm. En l'occurrence, pour l'année 1973, 18 films ont été tournés. L'année précédente, on était déjà à 20. Mm-hmm. Pour une fin provisoire en 1979.
Et d'ailleurs, de se dire que peut-être un autre que Yaphet Kotto aurait pu être le méchant de service au regard des stars afro-américaines qui avaient le vent en poupe à ce moment-là.
Oui, il y avait possibilité de faire Jim Brown. Il y aurait pu avoir Jim Brown dans le rôle. Il y aurait peut-être pu avoir aussi Fred Williamson.
Richard Roundtree.
Yaphet Kotto, c'est niveau classe, en fait. Il a tel charisme. Je ne vois que lui. Honnêtement, je vois que lui.
Totalement. En plus, en français, doublé par Médondo, qui est la future voix d'Eddie Murphy. Mm. Donc, grand nom. Il y a aussi Julius Harris, qui a été un des monuments de la Black Exploitation. Ça a été un monsieur d'une stature et d'une diversité de rôles absolument formidable.
Il ne faut pas oublier qu'il y a Yaphet Kotto et monsieur aussi gros bonnet
dans le film. Oui.
Avec un maquillage assez surprenant d'ailleurs.
Oui, c'est
et une voix
un double
différente.
Rôle. Oui.
Une voix différente. Mais bon, il faut bien reconnaître qu'avec Vivre et laisser mourir, moi ce qui m'a surpris, c'est ce que j'appelle la séquence new-yorkaise. Il y a la séquence vaudou, on en parlera dans quelques instants parce qu'il y a la rencontre avec Solitaire, mais la séquence new-yorkaise, elle est assez impressionnante part.
Oui, que ça soit la Nouvelle-Orléans, que ça soit Harlem, que ça soit les Caraïbes avec l'île fictive de San Monique. C'est très basé. Moi, ce que j'aime dans Vivre et laisser mourir, c'est quasiment l'exportation de l'espion anglais dans vraiment les États-Unis des années 70, très marquées.
Surtout par rapport à Harlem, comme tu le précisais, on était complètement dans un paysage ravagé. Il faut savoir qu'à l'époque, on le voit de toute façon dans le film, tout est détruit. Tout est en reconstruction.
Ça va durer jusqu'à l'époque de Wolfen en 82, si vous voyez ce que je veux dire, où le New York est aussi en destruction. Après, ça changera effectivement.
J'ai vu cette semaine d'ailleurs.
C'est vrai que c'est presque, d'ailleurs, Vivre et laisser mourir, Christophe, je sais pas ce que tu en penses, c'est presque un témoignage sur la cité New York, ce qu'elle était au début des 70. Si on veut montrer à quelqu'un New York, c'était ça.
Totalement.
C'est vrai par le prisme de Harlem, qui serait pas forcément le cas de Manhattan, mais voilà, c'est pour montrer l'état de désagrégation de cette cité, cette grande cité.
Puis il y a plein d'acteurs de second rôle de la Black Exploitation qui sont dedans. Le chauffeur de taxi qui est doublé par Gérard Hernandez, que ça soit aussi Murmure.
Ouais, Whisper.
Whisper, qui parle, qui a une espèce de mastodonte avec une voix très fluette.
J'ai pensé à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais.
Oui, ça va, ça suffit.
Mais non, mais tu n'as pas une voix qui murmure, donc
Non, Dieu merci, ça va. Bon, de ce côté-là, je vais bien.
N'oublions pas Baron Samedi.
Oui. Ah, Jeffrey Holder, qui a été jusqu'à tourner avec M. Claude Lelouch dans Hasard ou Coïncidence. Il était chorégraphe de danse. C'est lui qui les a faites.
Exactement.
Et il a même tourné une comédie musicale, Annie, de John Huston.
Alors, il y a une James Bond girl de service, c'est incontournable. Le choix s'est porté sur Jane Seymour, qui n'est pas une habituée des films d'action, loin s'en faut. D'ailleurs, ce n'est pas sa tasse de thé. Elle a souvent dit que le tournage de Vivre et laisser mourir lui avait laissé quelques souvenirs un peu rudes, parce qu'il fallait courir sous les balles, entre guillemets. Mais Solitaire, Jane Seymour, elle a une virginité à préserver jusqu'à ce que 007 arrive.
La crapule.
Oui, la crapule, les chaucartes. Puis elle est quand même assez jeune, Jane Seymour, quand elle le tourne, elle a 22 ans, elle est tout juste majeure.
Ça se voit.
Doublé en français par Monique Thierry, la voix française de Goldie Hawn.
Alors, je vous propose, puisqu'on parle de doublage, vous l'aurez compris, et vous savez que c'est une spécialité quand on aborde les films bondiens, notamment la période de Roger Moore, de retrouver donc un extrait de dialogue entre le méchant de service, interprété par Yaphet Kotto et doublé par Médondo, et puis Claude Bertrand, qui est bien sûr l'incontournable voix française pour Roger Moore dans les James Bond et ailleurs. Et ensuite, on écoutera une partition musicale composée donc par John Barry, si je ne dis pas de bêtises.
George Martin.
Et c'est pour ça, j'avais un doute, c'est George Martin, pardon, autant pour moi. C'est la rencontre avec Solitaire. Voilà, vous pouvez en profiter, c'est maintenant.
La vérité sans phare. Kananga fait pousser des hectares de pavots dans les champs camouflés et les cérémonies vaudou du baron samedi éloignent tout intrus. Et M. Grosbonnet est distributeur et grossiste en héroïne grâce à sa chaîne de restaurants Lieu Noir.
Moi, grossiste. Vendre de l'héroïne pour de l'argent.
Mes humbles excuses, je devine que vous la distribuez gratuitement.
Génial, Monsieur Bond. C'est précisément mon intention. 2 tonnes de drogue pour tout dire. Dans un marché où la concurrence est féroce, la distribution à fond perdu d'échantillons est une arme implacable. À l'homme ou à la femme, blanc ou noir, sans discrimination.
2 tonnes d'héroïne qui ont une valeur marchande $1 milliard vont être distribuées gratuitement. Eh bien, voilà qui va faire pas mal de bruit dans un certain milieu, non?
Du bruit? Mais mon cher Monsieur Bond, un tel procédé va les mettre dans une rage démentielle. Et il les mettra aussi à la soupe populaire.
Absolument génial. Une cam détaxée pour camer nécessiteux.
À vrai dire, jusqu'à ce que le nombre des drogués de ce pays ait doublé. Déjà pas mal. Ensuite, je vais mettre sur le marché les hectares sur lesquels vous êtes tombés ces jours-ci. Cette héroïne sera très très chère, évidemment. Faisant de moi et de la compagnie du téléphone les 2 seuls grands monopoles à connaître un boom d'avenir.
Et moi qui croyais que c'était Solitaire qui prédisait l'avenir.
J'espère pour vous deux qu'elle y réussira encore.
Il a tout compris à la musique de film, John Barry. Non, c'est pas John Barry, justement, et ça, c'est important de le souligner. Même moi, je me suis un petit peu pris les pieds dans le Happy de Solitaire. C'est George Martin, le producteur des Beatles, qui est à la manette, à la manœuvre, à la baguette pour un thème musical. On se le disait hors antenne, il a tout compris de l'esprit bondien et donc particularité de Vivre et Laisser Mourir, abstraction faite du générique, la partition musicale, c'est George Martin, le producteur des Beatles, qui l'a assumé.
Oui, totalement. Et puis je trouve que même... hormis tous les morceaux très bondiens qui peut avoir tout au long de cette composition, et les morceaux aussi faits pour le passage à Harlem ou le passage à la Nouvelle-Orléans ou dans les Caraïbes sont très ancrés tout est cohérent musicalement, c'est très cohérent avec l'image.
Voilà.
Il y a rien qui est dissonant.
Et on signalera en deuxième partie d'émission une petite incohérence, une petite dissonance au hasard d'une cascade spectaculaire. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, c'est un petit teaser à propos de l'homme au pistolet d'or. Maintenant, chers amis, il est peut-être temps de passer à table. Qu'en pensez-vous ? Parce que voilà, vous avez franchi une limite, celle du 106.6 de Cinéma Mété Comté, qui consacre donc cette nouvelle édition aux années James Bond, version Roger Moore à ses débuts années 70. Et il s'avère que, bon, ben voilà, il va se balader dans quelque endroit un petit peu chaud et humide, et puis il va être confronté à de grosses bébêtes qu'on n'a pas envie de rencontrer. Voilà, et le panneau pourtant était très clair. Ouais. Si vous franchissez cette limite, vous finirez dévoré, si on veut faire une traduction littérale du Trespassers Will Be Eaten Alive. Voilà, il est question d'alligator, mon bon Christophe. Oui. Là, faut pas s'en approcher. Hein.
Ouais, pas que.
T'as toute la famille, voilà, t'as crocodile,
alligator, oui, et puis trépasse, oui. Pilleur, Walter Hill, Eaton Alive, le crocodile de la mort. Oui. Là, je trouve qu'il y a des choses.
C'est une pancarte qui ouvre sur pas mal de films.
Voilà, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce morceau de musique que George Martin a signé. Puis c'est vraiment le passage où tu vois Julius Harris doublé par
Ambrose Dia.
Voilà.
Que jouait dans la mini-série L'île mystérieuse, avec Omar Sharif, Jason, Philippe Nico.
Ouais. Mais lui, oui, mais non, comme il a un bras métallique, lui, il peut donner à manger au crocodile. Bon, s'il y a un coup de dent, il craint rien.
Il s'est fait arracher de toute façon.
Voilà, c'est ce qu'il rappelle bien.
Ouais. Oui. Et voilà, quand on ne fait pas attention, voilà ce qui arrive.
Ouais. Bien. Alors. Je vous propose donc d'entendre ce thème. Revoyez Vivre et Laisser Mourir et vous comprendrez que Roger Moore se trouve à un moment en fort mauvaise posture, et j'avoue que je n'ai envie que de souligner le travail des cascadeurs, parce que les crocodiles sont vrais. Oui. Certes, ils étaient attachés, donc ils ne pouvaient pas se mouvoir, mais la queue et la mâchoire bougeaient quand même. Et quand il y a la séquence où ils passent dessus...
Ça se voit, comme on dit,
c'est du vrai. Voilà, aujourd'hui, ce serait CGI, effet numérique, assurance et compagnie. Ouais. À l'époque, à l'ancienne, on y allait. J'avoue que moi, en tant que cascadeur...
Marcher sur des vilains baisanvilles, comme ils les appellent.
Voilà, exactement. Ça, j'avoue que la version « Je marche sur un sac croco », ça m'a toujours laissé... Donc, la première fois que j'ai vu ça, je me disais, ils sont quand même gonflés, quoi, les cascadeurs, de faire ça. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime les James Bond. Et de cascade, il en sera question dans la deuxième partie, l'homme au pistolet d'or, teasing, acte 2. Allez, à tout de suite. Maintenant, on vous laisse en compagnie des crocodiles.
Chaque samedi sur 106.6, la musique fait son cinéma. We'll be right back.
Il a tout compris, George Martin. Mais enfin, quand on est le producteur des Beatles, on a forcément du talent. Et là aussi, acte 2 d'une partition musicale. Bon, bah, John Barry, j'ai presque envie de dire, a bien fait de prendre un petit peu de repos et de distance pour laisser le soin à d'autres talents de pouvoir s'exprimer, Christophe, parce que là, c'est vraiment du très, très solide. Et on va continuer. Parce que, bien sûr, dans Vivre et laisser mourir, il est question de vaudou. Alors, il n'y a pas Papa Théodore, ça c'est dans Starsky Hutch. Je dis ça pour qui connaît bien la série et le double épisode de qui ouvre la saison 3. Mais voilà, mais bon, il y a le Baron Samedi. Enfin voilà, c'est pas mal non plus. Hein. Alors, ouais, le vaudou, bon, forcément, c'est presque un cliché inévitable, un stéréotype inévitable pour un James Bond comme celui-là.
Ah bah oui, en plus, ça se passe dans l'île fictive des Caraïbes à San Monique. Ça a été tourné du côté de la Jamaïque. Qui est de Trinidad, donc voilà. Et puis Baron Samedi, c'est quand même personnage exubérant.
Et un truc qui m'a fait marrer dans le doublage, c'est Francis Lax qui annonce que Baron Samedi mesure 2m75.
15, oui. Wow. C'est vrai que c'est Francis Lax qui double Felix Leiter.
Ouais.
Et puis bon, personnage tellement iconique qu'il a été dans le jeu Nintendo 64 Golden Eyes parmi les méchants qui étaient dans ce jeu.
Pas que.
Et d'ailleurs, Cédric l'avait sur console, et mon Dieu que je l'ai fait, excusez le terme, mais chier avec Baron Samedi.
Ouais, oui, j'imagine.
Je ne veux pas être mal poli.
Mais ouais. C'est moi que je t'ai cassé les noix, ouais. Dis-le.
Ouais, bon, dis donc, il a un rire qui est dans ce... c'est celui de Baron Samedi.
Ouais, t'as envie de le coller au mur, quoi.
Voilà.
Hein, hein. Il lui cassait toutes les dents. Ouais.
Voilà.
Et gars, voilà, donc partir, hein.
Voilà, vous êtes... Voilà, donc vous le savez, nous avons notre Baron Samedi. Alors, à propos du vaudou, donc bon, c'est vrai que c'est un élément incontournable. Enfin, si vous n'aimez pas les serpents après les crocodiles, tant pis pour vous.
Parce
que
les crocodiles, ça va, les serpents, non.
Ça, là, vous allez connaître un mauvais sort et finir enfermé dans une boîte entourée de serpents. Bon, bref, voilà, c'est le cauchemar absolu. Et c'est aussi ce qui donne au film ce cachet exotique, film d'aventure quasiment. Voilà, on est dans la jungle, on est dans du mystère. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de très courant dans les James Bond, Christophe.
Non, c'est pas courant. Et puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est très coloré. C'est très lumineux. C'est très... Voilà.
C'était la touche, je trouve, Roger Moore à ses débuts, où c'est vraiment le total dépaysement.
Exactement.
Et le côté un peu fantastique, qui n'est pas donc a priori l'apanage des James Bond, on le retrouvait aussi un petit peu dans la présentation du véhicule censé effrayer les habitants dans James Bond contre Dr. No, ouais. Pour qu'ils ne s'approchent pas de l'île en question, déjà à l'époque. C'est il y avait ça. Comme ça une dimension un peu engin mystérieux qui pourrait vous attaquer. Bon, bah là, c'est un Baron Samedi.
D'ailleurs, tu as le fils de Quarel dans...
Ben oui,
dans
oui.
Laisser mourir.
Exactement, exactement. Bah oui, fort. D'une distribution artistique à une autre, il y a forcément des points communs qui s'établissent. Tout de suite, on vous laisse avec le thème du sacrifice, toujours composé par George Martin, et ce sera le dernier acte de Vivre et laisser mourir. Ensuite, on va basculer vers l'homme au pistolet d'or.
Thank you.
dans la boîte au serpent. c'était pas Alan Silvestri, c'était pas le thème final de Predator numéro 2, vous venez d'entendre. Mais nous sommes entre connaisseurs de musique de film, et il y a voilà un léger cousinage qui est parfaitement légitime. Je vous laisse ce soin, si vous aimez les musiques de film, de dire mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça. Bah, vous réécoutez les trésors du cinéma que je vous ai proposé la semaine dernière, le thème d'ouverture de Predator numéro 2, et vous aurez la réponse sonore à votre question. Le moment est venu de basculer, chers amis, de vivre et laisser mourir à l'homme en pistolet d'or, parce que Roger, on n'a pas vraiment eu le temps de se reposer. À peine avait-il terminé vivre et laisser mourir que tout de suite, allez hein. Allez hop, le suivant, il en faut un nouveau.
C'est ça qui m'a surpris, c'est la rapidité à laquelle c'est sorti. Ça a été tourné d'avril à août 1974 pour une sortie en salle en décembre de la même année.
Oui, oui. Ça, le temps simplement de se mettre d'accord sur le scénario, comme d'habitude. Ça, c'est fait partie des grands classiques de l'univers bondien. Mais c'est vrai que le film donc, sort très rapidement, voilà, bah, comme Vivre et laisser mourir a connu un très grand succès, a largement dépassé les espérances au box-office, on se dit qu'avec The Golden Gun, on va y arriver à nouveau. Et donc, il faut choisir un thème chanté. Et là, petite surprise, à la fin de l'émission, on entendra la partition composée et interprétée par une chanteuse anglaise qui s'appelle Lulu, bon, qui chez nous n'est pas très connue, pour ne pas dire pas connue du tout, qui a fait carrière en Angleterre.
Quand même, ouais, mais, ouais, sacré discours,
mais on aurait dû avoir Alice Cooper. Alors là, je te cache pas que j'ai le doigt prêt sur le prêt à démarrer.
C'est très bien, tu auras un bon point.
Merci.
Oui, c'est vrai qu'au départ, ça devait être Alice Cooper qui devait faire le générique d'ouverture de L'Homme au pistolet d'or. Il compose un titre qui est vraiment dans la veine Alice Cooper de l'époque, hein, 74, donc l'époque School's Out, très... C'est pas le Alice Cooper de Vendredi 13 des années 80, de la fin des années 80, ah, comme Poison, hein, c'est beaucoup plus glit-rock. Un peu Kiss, un peu le Alice Cooper de l'époque.
T-Rex,
tout ça. Ça s'entend énormément dans le morceau. Sauf que c'est refusé. Mm-hmm. Parce que Lulu, c'est une chanteuse, présentatrice de télé. Elle a été mariée à Maurice Gibbs, des Bee Gees. Mm-hmm. Sa carrière est un petit peu en descente. Donc, on essaye de la remettre un petit peu sur le devant. Et ça,
Albert Broccoli
a voulu... donner un coup de pouce à l'ancienne épouse de Maurice Gibbs. Elle vient tout juste de le quitter. Sa carrière est un peu en pente basse. Elle n'a plus que la présentation de son émission télé sur la BBC. Elle est d'origine écossaise. Donc, on essaye de lui donner un petit coup de boost avec ce générique qui sera refait, que vous entendrez à la fin. Mais moi, j'aime beaucoup le morceau d'Alice Cooper. Et Alice Cooper demandera à ce que le titre ne soit pas mis... dans les tiroirs, dans les limbes, il demande à pouvoir l'utiliser sur son propre album Muscle of Love de 1974, très bonne année. Franchement, le morceau, et moi, je le trouve très très bien, même supérieur au morceau choisi.
Tout de suite, le thème rejeté de L'Homme au pistolet d'or.
Too many.
Alice Cooper interprétant un thème de James Bond aurait pu être celui de l'homme au pistolet d'or en 1974, mais le thème fut rejeté au profit de celui que vous entendrez en toute fin d'émission interprété par la chanteuse anglaise Lulu. Alors sur ce, dans l'homme au pistolet d'or, bien évidemment, il y a un méchant. Alors là, avec celui-là, on est confronté à une pointure. C'est Christopher Lee dans le rôle du tueur Scaramanga. Et il s'avère qu'il a un cadre de vie extraordinaire. Il a en plus de ça un serviteur de petite taille, mais de grande efficacité. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas gêné pour dire c'est l'île fantastique. Parce que pour qui connaît la série télévisée, on se dit... Moi, je me demande quand même si les créateurs de la série Les Fantastiques n'ont pas regardé l'homme au pistolet d'or avant peut-être d'imaginer ce qu'est serait la série 3 ans plus tard.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Automatiquement, c'est ce qui saute aux yeux. Déjà pour Hervé Vilches, qui se retrouve dans la série. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Alors, puis, Hervé Vilches, acteur français, né à Montauban. Oui. Il ne faudrait jamais quitter Montauban.
Exactement.
Et puis en plus doublé en français par Guy Pirot, la voix française de Bugs Bunny de l'époque. Ça rajoute au côté.
Ça m'a un peu agressé l'oreille quand même.
Moi je trouve que ça passe bien avec le personnage. Ouais. Et puis c'est vrai que Christopher Lee, grand acteur, qui devait pas jouer Scaramanga, n'est-ce pas Cédric?
Non,
ça devait être un autre acteur.
Voilà, c'était Jack Palance qui avait été approché au départ. Je ne sais pas s'il a refusé, mais quoi qu'il en soit, Christopher Lee étant cousin par alliance avec Ian Fleming, ceci explique peut-être cela.
Et puis, il me semble me souvenir que Roger Moore et Christopher Lee s'étaient déjà rencontrés au hasard d'un épisode de la série Ivanhoé, donc ils se connaissaient depuis bien longtemps. Ils se croisaient, quoi. Voilà. La Hammer tournant ses films du côté de Pinewood, lui travaillant à mi-chemin entre Pinewood et Elstree en fonction du sein et l'amicalement vôtre. Forcément, ils ont dû échanger quelques verres et fumer quelques cigarettes ensemble, c'est bien normal.
Exactement, et puis L'homme au pistolet d'or, c'est le dernier film de la série réalisé par Guy Hamilton, à qui on doit beaucoup. Il a quand même réalisé Goldfinger, qui est le meilleur, pour moi, de la période Sean Connery. Mais il a aussi fait beaucoup pour les héros de littérature, puisqu'il a réalisé Meurtre au soleil avec Peter Ustinov, Hercule Poirot.
77,
oui. Voilà, et il m'a donné un film absolument magnifique, génial, purement années 80, à la limite du grand délire, qui est toujours pas disponible en DVD et en Blu-ray, c'est Remo sans armée dangereux avec Fred Ward et Joël Grey, tiré des romans.
Grand film.
Grand film. Et c'est toujours pas en Blu-ray et DVD. Et zut!
Et c'est aussi le réalisateur de La Bataille d'Angleterre en 69, produit par Harry Salzman, ceci dit en passant, qui est une belle page d'histoire illustrée, version cinéma, Seconde Guerre mondiale. Alors, ici, l'île fantastique. Oui, c'est le repère là où vont s'affronter, donc c'est bien sûr le climax du film, l'affrontement entre 007 et Scaramanga, et donc on va retrouver au niveau du doublage français, on est dans les sommets, Claude Bertrand face à Jacques Thébault, puis ensuite on écoutera la partition musicale composée cette fois par...
John Barry.
Par John Barry, voilà.
Et puis Jacques Thébault, voix française de Steve McQueen.
Voilà, et de Robert Conrad dans Les Mystères de l'Ouest.
Patrick McGowan, s'il vous plaît.
Et Patrick McGowan dans Le Prisonnier. Enfin voilà, donc c'est... voilà. Là, on vous propose vraiment du très très bon. Donc pour l'instant, on va se mettre dans le bain de la musique et puis ensuite on écoutera un extrait du dialogue. Voilà, c'est ce qu'on vous laisse le soin de profiter. Et vous êtes sur une île qui n'est peut-être pas si fantastique que cela, parce que si vous y êtes, il y a quand même quelques balles perdues.
Thank you.
J'en ai vu qui avaient la tête comme une montgolfière, mais comme vous, jamais. Lorsque je tue, c'est sur la demande expresse de mon gouvernement. Et ceux que j'exécute sont eux-mêmes des assassins.
Oh, voyons, voyons, monsieur Bond, vous me décevez beaucoup. Vous ressentez autant de plaisir à tuer que j'en ressens, alors pourquoi refuser de l'avouer?
J'avoue que vous tuer me ferait plaisir.
C'est dès qu'on a fait connaissance qu'il fallait le faire. Mais il est vrai que les Anglais considèrent qu'il n'est pas correct de tuer de sang-froid, c'est ça?
Je me ferai violence.
J'aurais pu vous descendre à l'atterrissage, mais ce carton de baraque forêt n'aurait été grotesque. Voyez-vous, monsieur Bond, je suis comme tout grand artiste, obsédé à l'idée de créer une véritable pièce de musée. Je veux prouver mon talent au monde. Le duel à mort avec double 07, mano à mano, face à face. Voilà mon chef-d'œuvre.
Mais après, vous l'empaillerez et le présenterez au-dessus de votre cheminée de pierre?
Ce serait amusant, certes, mais je voyais cela dans une optique plus vaste. Un duel, une bataille de titans. Mon pistolet d'or contre votre Walther PPK. Un combat avec armes égales et chances égales.
6 balles chez moi, une chez vous?
Une seule suffira.
C'est un peu démodé tout ça, non? Je veux dire, les pistolets aux aurores et tout le reste.
Je vous l'accorde, monsieur Bond. Mais il n'en reste pas moins que c'est le seul vrai test entre gentlemen.
Je doute que vous correspondiez à ce critère. Toutefois, j'accepte. Dès que j'en aurai fini avec le délicieux déjeuner que Trick Track nous a préparé.
Jacques Thébault face à Claude Bertrand, on parle de duel au pistolet entre Scaramanga et 007. Mais alors, en matière de doublage, vous l'aurez compris, pour qui aime le doublage et la qualité du travail réalisé à l'époque, on est...
dans le haut du panier.
Dans le haut du panier. C'est le sommet de la Coupe du Monde des doubleurs. C'est magnifique.
Les deux, que ce soit Vivre et laisser mourir ou L'homme au pistolet d'or, et surtout l'homme au pistolet d'or, c'est un chef-d'œuvre de doublage.
Alors, nous arrivons dans les derniers temps de l'émission, donc on va passer à l'action avec 007, toujours John Barry d'ailleurs très inspiré pour cette partition musicale de L'homme au pistolet d'or. Et donc le thème que tu as choisi, on va aller les chercher, hein, si je veux faire une traduction très abrupte du thème que tu as sélectionné.
Hey, let's go get them, c'est le passage de la poursuite en Austin Martin Matador. Avec le sergent J.W. Pepper qui est de retour de Vivre et laisser mourir, Clifton Webb, doublé par Pierre Garin, qui était la voix française d'Herbert Lund dans les Panthères Roses. Voilà. Puis il y a aussi Sontek Oh dans les acteurs secondaires. Sontek Oh, acteur asiatique, qui a tourné 4 ans plus tard avec Chuck Norris, Le Commando des Tigres Noirs, qui tournera à la Canon Le Justicier Braque les Dealers avec Charles Bronson.
Il y a aussi Richard Lowe. Richard Lowe,
qui a commencé dans les années 30 dans le cinéma asiatique, noir et blanc, dont c'est le dernier film d'ailleurs.
Ouais, t'as une toute jeune actrice dont j'ai oublié le nom, asiatique, qui joue une des deux nièces, qui finira dans Crazy Kung Fu.
Oui.
Ah oui, parce qu'on l'a oublié de le dire, mais en matière de karaté, on est servi. Hein.
Ah ouais. T'as un petit côté Fureur de Vaincre, Opération Dragon dedans. Et oui, tu as raison, une des deux nièces de Sontek Oh, c'est Mama Cigarette dans Crazy Kung Fu, Stephen Chow. Je l'ai reconnu aussi. Ouais. Ça m'a tout de suite frappé aux yeux.
Voilà, donc on vous propose tout de suite d'entendre ce thème où 007 entre en action et en matière de poursuite en voiture dans L'homme au pistolet d'or. Mais c'était typique de l'époque. Hein, je veux dire, nous sommes dans la période où un film d'action sans poursuite en voiture, il y a quelque chose qui coincerait depuis. Ça avait été ouvert avec Bullitt. Là, on est servi sur un plateau avec notamment une superbe cascade. Sauf qu'il y a un choix musical qui a été fait par John Barry qui est catastrophique.
Et justement, ça a été gommé dans la version CD.
Voilà, ça c'est par contre pas dans la version VOD, plateforme VOD, si vous avez été voir le film.
Dans le film, non.
Ce que tu veux, DVD, Blu-ray, ça c'est toujours présent malheureusement.
Voilà. Sur ce, place donc à James Bond, 007 en action dans L'homme au pistolet d'or et les questions de poursuite en voiture, entre autres.
Écoutez le cinéma sur Radio Campus Lille.
Et vous aurez certainement perçu comme une forme d'incongruité que ce thème de Flutio, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, que John Barry a choisi de mettre au moment d'une cascade qui est formidable dans le film. Je vous laisse le soin de la découvrir, le franchissement d'une rivière entre deux morceaux de pont, c'est vraiment une cascade extraordinaire. Et John Barry d'ailleurs lui-même, bien plus tard, a reconnu que c'était une connerie, pour dire les choses très simplement. Même les plus grands peuvent se tromper, et Dieu sait qu'avec John Barry, voilà, un respect dû à sa personne. Sur ce, nous arrivons dans les dernières minutes de l'émission, et on va conclure bien sûr avec le thème final de L'Homme au pistolet d'or. Et donc, j'avoue que oui, Lulu, cette chanteuse anglaise donc, qui aura bénéficié d'un retour en grâce, je ne sais pas si ça a duré d'ailleurs par la suite, parce qu'on m'a dit qu'elle a une imposante discographie, oui. Mais j'avoue, oui. Assez peu la connaître.
Oui, elle a une discographie assez importante, elle est présentatrice télé, elle est romancière, elle est productrice. En Angleterre, elle est très très connue. Il y a même eu un documentaire qui a été diffusé il y a quelques temps sur Arte qui s'appelle Forever Lulu, qui justement résume un petit peu sa carrière.
Peut-être effectivement une carrière à redécouvrir. Vous allez entendre donc ce thème qui va conclure cette émission. Et cette fois, on peut dire que nous avons mené notre mission à bien en ce qui concerne Roger Moore. Voilà, on a réussi à le faire.
Mais James Bond reviendra.
Mais voilà, exactement. Et c'est ce que j'adore toujours à la fin du générique. James Bond will return. James Bond reviendra, car il sera bien sûr question de Timothy Dalton, de Sean Connery. On ne laissera pas sur le côté George Lazenby, surtout pas.
Surtout là, pas. Hein. Oui, oui.
Est-ce qu'on aura le courage d'affronter Pierce Brosnan? On a parfois un petit peu de mal autour de la table, mais je pense qu'il faudra le faire. Bref, c'est vous dire qu'il y a encore plein d'épisodes bondiens. Il y a de quoi faire.
C'est même peut-être mieux d'aborder Pierce Brosnan que Daniel Craig.
Oui, alors ça c'est...
Le plus tard possible.
Le plus tard possible, voilà. Le plus tard peut attendre. Vous écoutiez Cinéma m'était compté, une émission présentée par Christophe Dordain. Grand merci à Christophe Colpart et Cédric Poulvord qui m'accompagnaient en ce samedi après-midi. Dans quelques instants, à partir de 15h, suite des programmes sur Radio Campus Lille. Et nous serons de retour, bien évidemment, la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres et de terminer donc avec le thème d'ouverture de L'Homme au pistolet d'or interprété par Lulu, film sorti en 1974 sur les écrans. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme et de vous dire la semaine prochaine. Au revoir.
Bon week-end à tous.
Au revoir.
Au revoir.
One golden shot.